Victor Dixon, bienvenue. C'est une grande joie de vous accueillir ici pour la première fois, je crois.
Oui, première fois chez Mola et première fois à Bordeaux. Donc voilà, je suis très content d'être ici.
Vous avez été double lauréat du Grand Prix de l'Imaginaire Jeunesse. La première fois, c'était pour le premier tome de Le Cas Jack Spark.
Oui, tout à fait, 2010.
Et la deuxième fois, c'était aussi pour le premier tome, mais d'une série qui s'appelle Animal. Enfin, en tout cas, le premier tome s'appelle Animal. Aujourd'hui, c'est plutôt autour de Phobos qu'on va axer cette conférence, puisque le tome 3 est paru au mois de novembre. C'est un thriller spatial assez vitaminé, dont le projet finalement consiste à coloniser la planète Mars. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu ?
Oui, alors juste par rapport à ce que le terme que vous employez, vitaminé, il se trouve qu'à Londres, j'ai rencontré l'éditeur qui va publier Phobos en anglais, parce que c'est une très bonne nouvelle. Les droits ont été achetés, ça apparaîtra donc l'année prochaine. J'ai rencontré donc l'équipe de l'éditeur et ils m'ont demandé de leur résumer un peu ce que j'avais voulu faire avec Phobos, et j'ai pris l'image d'un cocktail. Ce que j'ai voulu faire avec Phobos, c'est un cocktail vitaminé avec trois ingrédients principaux. Un tiers de science-fiction, mais une science-fiction que j'ai voulu vraiment réaliste. C'est-à-dire que je voulais pas une science-fiction à la Star Wars, qui se passe dans un futur très lointain, qui se rapproche de la fantasy, mais une science-fiction qui pourrait vraiment se passer demain, avec la technologie qu'on maîtrise aujourd'hui, quelque chose qui soit très réel, très réaliste. Et c'est la raison pour laquelle, notamment, on a mis dans le roman, avec l'éditeur, pas mal de schémas, d'illustrations techniques, pour que les lecteurs puissent se représenter de manière très claire, très précise, ce dont on parle dans ce projet de conquête spatiale dont il est question dans Phobos. Premier ingrédient, la science-fiction réaliste. Le deuxième ingrédient du cocktail, c'est la romance, bien sûr. Très important pour nous, lecteurs, l'amour. Il est question de speed dating dans Phobos. Très rapidement, il est question d'un projet de conquête martienne, mais qui passe par la télé-réalité. C'est-à-dire que 12 jeunes gens sont sélectionnés sur Terre parmi des millions de candidats, 6 garçons et 6 filles, pour partir vers Mars en aller simple. La technologie nous autorise à envoyer des gens sur Mars, mais pas à les en faire revenir. Donc ils ont décidé, ils ont signé toutes les décharges pour partir à jamais. Et leur mission à bord du vaisseau, pendant les 5 mois de voyage, ça va être de constituer 6 couples, 6 familles qui, une fois arrivées sur Mars, devront procréer. Il y a donc un jeu de speed dating qui va se former à bord du vaisseau et qui sera filmé 24 heures sur 24 et retransmis donc sur la chaîne Genesis. Donc la romance est bien présente. Elle paraît très simple en surface. Un jeu de speed dating, on vous dit en 6 minutes, vous allez trouver votre âme sœur. Ça paraît merveilleux. Mais en fait, ça va être beaucoup plus compliqué que ça et beaucoup plus tourmenté. Et le dernier ingrédient de Phobos, après la science-fiction, la romance, c'est la partie thriller. Parce que Phobos, au final, c'est vraiment un thriller que j'ai choisi de découper non pas en chapitres, comme un roman traditionnel, mais en séquences. J'ai écrit ce livre comme un script de cinéma, en adoptant différentes focales, chant, contre-chant, hors-chant et chaîne Genesis, de manière à ce qu'on soit à la fois à bord du vaisseau avec nos passagers, nos candidats, avec les organisateurs du programme. On va voir de quelle manière ils tirent les ficelles et peut-être le complot qui se cache véritablement derrière le programme Genesis. Et également, derrière son écran de télévision, comme si on était nous-mêmes un spectateur de la chaîne Genesis. Donc le lecteur de Phobos a finalement accès à ces 3 perspectives, à ces 3 focales.
Et oui, c'est ça qui est compliqué pour nous, c'est-à-dire qu'en tant que libraire, conseiller Phobos, voilà, en 2 minutes, c'est très facile, on arrive à susciter la curiosité. Autant, là, ce qui est compliqué, c'est de parler de la série, essayer de rentrer dedans sans dévoiler l'histoire, puisque finalement, à travers 3 tomes et demi, quand même, de Phobos, il y a des rebondissements à chaque page, il se passe à chaque fois quelque chose, des révélations tombent. Comment faire ? Enfin, je pense qu'on vous a déjà dit que vous étiez le maître du cliffhanger, et je pense qu'on vous l'a déjà dit, non ?
On l'a suggéré, peut-être.
Donc on va essayer en tout cas de rester un petit peu en orbite pour les lecteurs qui ne l'ont pas encore lu. J'avais une question par rapport au personnage de Léonore, puisque finalement, dans la séquence chant, c'est son point de vue à elle qu'on va avoir. Pourquoi ce choix? Pourquoi cette personne en particulier?
Alors nous avons donc 12 candidats qui partent dans ce programme de conquête spatiale et de ce programme de télé-réalité qui viennent de 12 pays différents. J'ai choisi ces 12 pays tout simplement en regardant quels sont aujourd'hui dans notre monde les pays qui sont les plus avancés en termes de conquête spatiale, qui octroient la plus grosse part de leur budget à la conquête spatiale. Et ça m'a donné les 12 nationalités de mes candidats. La France fait partie de ces 12 pays. Et j'ai choisi, parce que je suis un auteur français qui écrit en français, de faire de Léonore, la candidate française, mon personnage principal. Quant au choix de la première personne, qui est, comme vous l'avez dit, utilisée uniquement dans les séquences chants, qui sont vues du point de vue de Léonore, j'ai voulu justement qu'on soit plus proche de ce personnage en particulier. Qu'on voit tout ce grand barnum médiatique à travers ses yeux à elle, ses yeux de candidate, et avec son ressenti, ses émotions. Donc elle s'exprime à la première personne et au présent. Alors que les autres focales, les autres séquences, sont à la troisième personne avec un point de vue beaucoup plus distant peut-être.
Et c'est vrai que vu comme ça, on se dit si fille, si garçon, bon, ça paraît simple. Et sauf que forcément, rien ne va se passer comme prévu.
Alors ça, je pense que c'est un peu une règle dans tous les programmes de télé-réalité, hein, y compris ceux qui existent aujourd'hui, c'est que les producteurs, les organisateurs cherchent à faire de l'audience et cherche à créer du clash, comme on dit, du conflit, parce que c'est ça qui fait voir, qui intéresse. Et certainement, ces 12 candidats ont été choisis pour des raisons bien particulières. Ils ont des secrets qu'ils vont se dévoiler au fur et à mesure du programme. Et les producteurs espèrent que ça va clasher. Mais peut-être que les candidats seront plus intelligents que ça et réussiront à réconcilier leurs différences et à faire preuve de solidarité. Ça, le déroulé des événements nous le dira.
Et concernant le procédé de speed dating, vous, c'est quelque chose auquel vous croyez personnellement ? Ça peut fonctionner comme ça, une rencontre amoureuse ?
Je pense que le speed dating, finalement, c'est un mot moderne pour parler de quelque chose qui existe de tout temps et qu'on appelait avant le coup de foudre. Donc le fait de tomber amoureux très rapidement, en un claquement de doigts, ça existe, ça a toujours existé. Roméo et Juliette, c'est là pour en témoigner, hein, parmi plein de références littéraires. Donc oui. Maintenant, le fait de vouloir le systématiser, de créer un jeu de télé-réalité, un spectacle où les couples vont devoir se constituer de manière parfaite, c'est un peu utopique. C'est fait que le fait de choisir 6 étrangers et 6 étrangères et miser sur le prendre le pari qu'ils vont créer des couples idéaux, c'est un peu risqué peut-être.
Et en même temps, les candidats eux-mêmes, on a l'impression qu'ils sont déjà formatés. Quand on voit le personnage de Fang Fang, par exemple, qui est singapourienne et qui va dire à Tao, on est de la même culture, on est fait pour s'entendre, je sais cuisiner chinois, on est fait pour s'aimer et faire des bébés. Premier rendez-vous, c'est un peu compliqué.
C'est vrai que chaque personnage vient avec sa personnalité, avec ses références culturelles. Alors j'ai essayé de puiser aussi dans ma propre expérience. J'ai pas mal voyagé, vécu dans différents pays et j'ai en particulier vécu à Singapour pendant 5 ans. Je m'en suis servi pour le personnage de Fang Fang, pour sa personnalité, sa manière de voir le monde. C'est vrai que les Singapouriens ont une vision très carrée des choses. Et pour elle, c'est clair que s'il y a un candidat chinois donc, qui a une culture assez proche de celle de Singapour, c'est forcément celui avec qui elle va se mettre en couple. Elle a déjà prévu qu'elle aurait 8 enfants, parce que 8, c'est en plus un chiffre qui porte bonheur en Chine. Donc elle lui déroule tout ça pendant la première séance de speed dating. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus séduisant comme discours.
C'est plutôt assez effrayant, oui, c'est sûr.
Alors, est-ce qu'elle finira avec Tao au final ? Certains d'entre vous le savent, ceux qui l'ont lu. Pour les autres, c'est le suspense.
Oui, parce qu'elle parle déjà en termes de statistiques,
Il se trouve qu'elle elle était détentrice d'un doctorat en mathématiques pures avant de partir. Donc, effectivement, elle a une vision du monde très statistique. Oui.
Et ce qui est assez amusant, c'est que de l'autre côté, c'est-à-dire en contre-champ, on a aussi la vision des producteurs de l'émission qui discutent entre eux et qui donnent leur avis, puisque tout le monde participe finalement. C'est une télé-réalité planétaire, ce qui s'est jamais vu.
Oui, et c'est vrai qu'une fois encore, la technologie aujourd'hui, les réseaux, les écrans nous permettent d'avoir ces shows mondiaux. Hein. Les Jeux Olympiques, c'est un des exemples, mais on pourrait imaginer que une conquête spatiale, une conquête martienne, si elle arrive demain, aurait le même écho mondial que la retransmission des Jeux Olympiques. Et c'est vrai que tout le monde se prend au jeu, y compris les organisateurs qu'on voit dans leur bunker, parce qu'ils sont retranchés dans une pièce secrète pour tirer les ficelles du jeu, prennent leur propre pari sur les candidats. Mais il faut savoir qu'il y a quelque chose de beaucoup plus ténébreux, de beaucoup plus obscur et dangereux derrière ce jeu de speed dating, donc, que je ne vais pas dévoiler aujourd'hui pour ceux, les quelques-uns qui n'ont pas encore lu le premier tome. Mais vous, lecteurs, vous allez le découvrir dès les premières pages avec les organisateurs.
Et là où je suis surprise, finalement, c'est que cette idée de la conquête de l'espace par le biais de nouveaux couples qui vont coloniser, créer le nouvel espoir d'une humanité nouvelle, mais c'est un projet qui existe vraiment. En tout cas, moi, j'ai vu le projet Mars One,
oui, tout à fait,
qui a reçu un nombre incalculable de candidatures.
Plus de 200 000. Alors, c'est vrai que je le disais tout à l'heure en introduction, le Mars est à portée de main. La NASA envisage d'envoyer des gens sur Mars dans les années 2030 et on a des sociétés privées qui disent vouloir aller encore plus vite. Et notamment cette société néerlandaise qui s'appelle Mars One et qui envisage d'utiliser la télé-réalité pour financer un voyage jusqu'à la planète Mars. Et ils ont lancé un appel à candidature mondiale il y a maintenant 3 ans et ils ont reçu 200 000 candidatures du monde entier, dont d'ailleurs un certain nombre de Français. Alors le projet pour l'instant est un peu en sommeil, ça a été très médiatisé il y a 2 ans encore et maintenant on n'entend plus trop parler. Il faut dire que d'un point de vue technique ça a été vraiment attaqué par des scientifiques, notamment Harvard a décortiqué toutes les étapes de ce programme et ils ont estimé je crois que les gens qui partiraient survivraient une trentaine de minutes une fois sur Mars.
Bah, c'est-à-dire que pour faire des bébés, c'est un petit peu court quand même. Voilà. Hein.
Donc du coup, c'est sûr que ça a un peu refroidi certaines velléités. Néanmoins, ça repartira peut-être. Et il n'y a pas que Mars One, il y en a plein d'autres. Elon Musk, par exemple, qui est une personnalité américaine, le milliardaire qui est derrière Tesla, les voitures électriques. Lui, son rêve, c'est vraiment depuis qu'il est tout petit, la conquête martienne. Et il investit tous les bénéfices dans sa société SpaceX, notamment, qui envisage de conquérir Mars. Mais il y en a beaucoup d'autres. Donc ça devient, et c'est quelque chose qui est assez spécifique aujourd'hui, hein, le fait que ça ne soit plus uniquement les organisations gouvernementales comme la NASA, mais aussi des individus, des sociétés privées qui veulent partir à la conquête de l'espace. Donc c'est très excitant et en même temps un peu inquiétant peut-être.
Oui, c'est ça, parce que c'est-à-dire que là, il s'agit d'une fiction quand même. Et c'est déjà assez angoissant, mais on imagine ce que ça pourrait donner si ça devenait réalité. Et là, c'est carrément fou, quoi.
Et c'est carrément fou, mais en même temps, ça n'est pas impossible. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais d'une science-fiction réaliste. J'ai juste observé ce qu'il y avait dans notre société autour de nous aujourd'hui, et puis j'ai déroulé un peu plus la bobine. J'ai tiré un peu plus loin le trait, mais j'ai pas balancé des technologies ou des choses qui sortant du chapeau qui n'existent pas aujourd'hui. Tout existe déjà, donc c'est un futur possible. Et c'est à ça que sert la littérature aussi, je pense, notamment la science-fiction, c'est d'explorer des possibles. Ça nous permet d'être mieux préparés à ce qui va venir et peut-être de faire des choix de manière différente.
Et ça a dû vous demander quand même un travail assez titanesque, toutes ces recherches, parce que même si personnellement je ne m'y connais pas forcément dans le domaine spatial, ça paraît plausible. Et en plus, vous venez ajouter, comme on le disait tout à l'heure, des croquis, des schémas très détaillés, donc ce qui ajoute vraiment une part de réel. Combien de temps vous avez passé un petit peu à faire des recherches?
Je pense que j'ai passé une année de travaux préparatoires avant d'écrire la première ligne de Phobos, ce qui inclut des recherches documentaires, effectivement, iconographiques, techniques, et également la construction de mon intrigue, de mes personnages. Tout ça a pris une année. Et en même temps, je voulais que ce ne soit pas un frein à la lecture. C'est-à-dire que ça soit très réaliste, que techniquement ça tienne la route, mais qu'on ne bute pas sur des grands paragraphes d'explications techniques qui nous fassent perdre le fil de l'action et ce côté thriller, justement, qui ne va qu'en s'accélérant jusqu'à la fin du livre. Et je pense que les schémas, les illustrations remplissent ce rôle de communiquer des informations techniques, finalement, de manière assez fluide et assez rapide. Hein. Napoléon disait qu'un schéma vaut mieux qu'un long discours. Et là, en l'occurrence, je pense que ça fonctionne assez bien de cette manière.
Et donc, on parlait... parce que vous avez quand même une écriture qui est, bon, déjà, qui est très puissante, qui est très vive. Et vous avez choisi cette écriture très cinématographique, donc en séquence. Donc on rappelle, il y a le chant, donc le point de vue de Léonore, le contre-champ qui est là.
Les organisateurs, donc voilà. Ce qu'il y a de l'autre côté de la caméra, ce qu'on ne voudrait pas montrer aux spectateurs.
Et le point hors-champ aussi.
Le point hors-champ, alors effectivement, j'ai certains personnages, hein, pour ceux qui ont lu, c'est Andrew et Harmony, qui ne font pas partie de la mission spatiale, qui ne font pas non plus partie des organisateurs, mais qui, pour une raison ou pour une autre, vont découvrir qu'il y a quelque chose de pas très net derrière le programme Genesis et vont décider de mener en électron libre leur propre enquête. Donc eux, ils sont ni dans le champ, ni dans le contre-champ, ils sont vraiment hors-champ. Donc c'est ces séquences-là.
Et il y a aussi donc la chaîne Genesis, puisque le lecteur suit en direct, c'est-à-dire qu'à la fois il lit et en même temps il regarde. Il regarde la chaîne Genesis en même temps que tout le monde, sauf qu'il connaît un petit peu plus de choses quand même, il est un peu plus omniscient, on va dire, même s'il y a des parts d'ombre. C'était important pour vous d'apporter au lecteur ce point de vue de spectateur ?
Oui, pour moi, c'était important d'avoir le lecteur, de donner toutes les cartes finalement au lecteur dès le départ. C'était un peu un pari aussi que je faisais avec ce roman. La plupart des romans en littérature young adult convergent, on sent qu'il y a un mystère, et ça converge vers la révélation du secret. Plus on avance dans le livre, plus on approche du secret. Et dans Phobos, dans le tome 1, j'ai voulu donner au lecteur toutes les cartes dès le départ. C'est-à-dire que dès le départ, il sait ce que les personnages ne savent pas. Il sait que le programme Genesis est pourri. Il sait qu'il y a vraiment un secret mortel derrière ce programme. Et on aimerait dire aux personnages, on aimerait dire aux astronautes, à travers le roman, à travers les pages, qu'ils vont peut-être vers un destin qu'ils n'attendent pas du tout. On aimerait les prendre par les épaules et leur communiquer ce message. On ne peut pas, malheureusement. Donc finalement, le suspense et la tension se décalent. Ça n'est pas le fait de découvrir un secret, mais plutôt de savoir quand est-ce que les personnages vont découvrir ce que nous, lecteurs, on sait déjà. Et le fait de placer le lecteur également en position de spectateur de la chaîne, c'était important pour moi, peut-être pour mettre un peu en abîme tout ce monde d'images dans lequel on vit, et faire en sorte que lorsqu'on referme le livre, on se demande, mais qu'est-ce que j'ai été pendant cette lecture ? Est-ce que j'ai été un lecteur ? Est-ce que j'ai été aux côtés des héros ? Est-ce que j'étais spectateur voyeur de la chaîne Genesis ? Si on se pose ces questions, je pense que c'est que le pari du livre est rempli. Et notamment ce côté cliffhanger dont vous parliez, j'utilise beaucoup le côté lecteur-spectateur, c'est-à-dire que la fin de chaque roman, hein, sans spoiler pour ceux qui n'ont pas lu, se termine par un écran de la chaîne Genesis qui s'arrête d'un seul coup. Et là, le lecteur est vraiment en position de spectateur, comme si son écran de télévision s'arrêtait de manière abrupte, alors qu'on veut vraiment savoir la suite.
Et après, sans faire de révélation encore, finalement, quand on termine Phobos, on a un point de vue assez pessimiste au niveau de la conquête spatiale en elle-même, c'est-à-dire que même s'il y a de l'amour, même s'il y a des vraies amitiés qui se nouent, on a l'impression que c'est un peu peine perdue. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense pas que ce soit pessimiste, peut-être réaliste. Alors après, est-ce qu'être réaliste, c'est être pessimiste, et idéaliste, c'est être optimiste ? Ça, je sais pas. Je pense que la technologie, de manière générale, n'est ni bonne ni mauvaise. La technologie, c'est un pouvoir, et qui, moralement, ça dépend de ce qu'on en fait. Les écrans, par exemple, les réseaux qui nous entourent, les réseaux sociaux, c'est un formidable moyen de rentrer en contact avec les autres. Et ça, c'est fantastique. On n'a jamais connu ça dans l'histoire de l'humanité jusqu'à présent. Dans le monde du livre, on a par exemple les blogueurs, les booktubeurs qui sont des lecteurs qui, à travers YouTube, à travers leur blog, vont partager leur passion avec d'autres lecteurs, créer des communautés. Ça, c'est fantastique. Mais en même temps, les réseaux sociaux nous poussent aussi à nous mettre en scène en permanence, créent une tension. Il y a du cyberbullying, du harcèlement sur les réseaux sociaux à cause de l'image qu'on renvoie. Il y a également des news qui nous arrivent, des infos. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Hein. Aux États-Unis, où je vis, c'est un grand débat en ce moment, les fake news, les alternative facts. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, on ne sait plus. Donc finalement, les réseaux sociaux, c'est un bon exemple de la technologie qui est soit bonne, soit mauvaise en fonction de la manière dont on s'en sert. La technologie qui nous permettra d'aller dans l'espace, d'aller sur Mars, qu'est-ce qu'on va en faire ? Si on va dans les étoiles demain, si on va vers Mars, ça sera pour faire quoi ? Est-ce que ce sera pour faire un grand show médiatique et gagner le plus de recettes publicitaires possible ? Ou est-ce que ce sera pour créer une nouvelle utopie où les choses se passeront mieux que sur Terre ? La technologie ne peut pas nous apporter les réponses. C'est nous, humains, qui utilisons cette technologie qui devons choisir.
En même temps, c'est le terme que vous avez choisi, utopie, parce que il y a effectivement les nouvelles technologies, mais au-delà de ça, il y a l'humain. Et là, on se rend compte que tous ces candidats qui partent sur Mars, déjà, pour moi, je me dis, quand on choisit de quitter la Terre, de tout plaquer, peu importe notre passé, peu importe ce qu'on essaie de fuir, mais c'est quand même profondément tragique. C'est-à-dire que c'est quand même, je trouve, et là c'est peut-être un peu philosophique, mais assez révélateur d'un mal-être. Alors comment réussir à impulser une nouvelle vie sur une autre planète avec tous ces mystères, tous ces secrets
mais vous savez, en fait, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu à plein de moments des humains qui choisissaient de partir pour toujours pour une autre rive ou un autre monde. La conquête, l'histoire de la conquête du Nouveau Monde, c'était des colons qui partaient en plaquant tout derrière. Ils savaient qu'ils ne reviendraient jamais. Donc là, on a juste des distances qui sont plus importantes. Mais d'un point de vue choix existentiel, c'est la même chose. Et une fois encore, dans le projet Mars One, on a 200 000 personnes du monde entier qui ont fait ce choix. Et moi, ça m'a vraiment interpellé en tant qu'auteur. Je me suis dit, je vais essayer de me mettre dans la peau de 12 de ces personnages et imaginer quels sont les ressorts psychologiques qui les poussent à faire ce choix définitif, un aller sans retour possible. Et c'est là que c'est intéressant, et je me suis pris au jeu, j'ai vécu avec mes personnages. Je ne savais pas du tout quel couple allait se former, par exemple, dans les jeux de speed dating.
C'est là qu'ils m'ont vraiment...
J'avais un plan prévu, mais ils ont déjoué tous mes pronostics. À partir du moment où ils se sont mis à vivre dans les pages, à dialoguer, à exister vraiment, j'ai perdu le contrôle. Enfin, j'étais spectateur, moi aussi, d'une certaine manière. Et c'est pour ça que c'est fantastique d'écrire, parce qu'il y a une part de surprise et d'imprévu, de danger aussi dans l'écriture.
Et donc, est-ce qu'il y avait un message, peut-être, alors c'est peut-être un terme un peu fort, mais que vous essayiez de transmettre à travers cette série, à travers cette notion de télé-réalité, de mise en scène de soi, à vos lecteurs, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez eu envie de faire passer, ou alors c'était juste un projet qui vous tenait à cœur sans...
Alors, je n'ai pas généralement de message à faire passer dans mes livres ou de thèse a priori que je voudrais illustrer absolument. J'ai plutôt des questions, des choses qui me paraissent importantes et que j'ai envie d'explorer à travers la fiction. Pour moi, la fiction, c'est un formidable moyen d'explorer des questions. Et en l'occurrence, comme on le disait précédemment, le poids de l'image dans notre société, le poids des écrans et qui va en s'accélérant, c'est quelque chose qui m'interpelle vraiment. Et c'est ça que j'ai voulu explorer dans Phobos, avec mes personnages, à travers ce système de jeu de speed dating. Essayer de voir jusqu'où il fallait aller pour échapper aux écrans, est-ce que c'est possible, même en partant à l'autre bout de l'univers, d'échapper à ce jeu de représentation.
Et que même quand on pense connaître quelqu'un, finalement, en tout cas, c'est ce qui se passe avec chaque personnage de cette série, même quand on pense le connaître, il y a un retournement de situation qui fait qu'on se dit, mais non, c'est plus du tout la personne que j'avais en face de moi.
Mais je pense que les humains, on est tous des gens complexes, on est des phénomènes complexes avec plein de facettes cachées, exposées ou autres. Et la télé-réalité en particulier, les écrans en général, voudraient nous faire croire que tout est simple et lisse en surface, avec un seul angle justement. Je pense que c'est pas vrai. En fait, on a tous ces multiples facettes. Et dans le cadre d'une trilogie comme Phobos, une série où justement on a de l'ampleur, on a le temps d'explorer tout ça et de montrer les différents aspects des personnages. Et c'est un grand ressort effectivement de l'action dans cette série.
Et au niveau des thèmes abordés, puisqu'il y en a beaucoup, notamment les dérives de la science, notamment les manipulations politiques aussi, puisque tout ce qui se passe sur Terre, ça tourne autour de la politique. Hein. Clairement, on a la figure de Serena McBee qui est absolument machiavélique, et on ne vous dira pas pourquoi.
Donc, Serena McBee est la productrice exécutive du programme Genesis et également la casteuse, hein, la recruteuse, celle qui a choisi un par un, pour des raisons bien particulières, les 12 candidats. Et c'est un personnage que les candidats eux-mêmes considèrent un peu comme leur deuxième mère, une espèce de marraine toute puissante et bienveillante, mais malheureusement, c'est loin d'être la réalité.
marraine ou marâtre après.
Voilà.
Ça dépend, mais en tout cas, comment ça se passe? Moi, je me demandais ce processus de création de personnages. Est-ce que des personnes vous inspirent de votre entourage? Est-ce que vous choisissez...
Je réponds pour Serena, quelqu'un.
Pas forcément pour Serena, mais en tout cas, est-ce que vous partez sur un prénom et vous dites, à partir de ce prénom, je vais créer une enveloppe corporelle? Comment ça se passe?
Ça fonctionne plutôt comme par agrégation, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs idées qui viennent et qui se composent et qui peu à peu créent le personnage. Il n'arrive pas tout habillé, tout fait comme ça dans mon esprit, c'est vraiment un processus. Avant de me mettre à écrire. Et lorsque je me mets à écrire, lorsqu'il commence vraiment à exister, il change aussi beaucoup. Donc finalement, je ne pourrais pas dire qu'il y a une personne en particulier qui m'a inspiré de tel personnage. C'est plutôt un faisceau d'influence. Le choix du nom, parfois, est évident. Parfois, je fais de nombreux essais avant de trouver le nom qui convient. Il n'y a pas vraiment de règles en ce qui me concerne.
Et par rapport à la série en elle-même, il me semblait qu'au départ, c'était annoncé comme un diptyque, donc deux tomes. À quel moment l'éditeur et vous, vous vous êtes dit, bon, ben, en fait, on va en faire trois, et puis trois et demi, finalement, puisqu'il y a Origine qui est sortie cet été aussi.
Alors, dans mon esprit, ça devait toujours être une trilogie, mais on n'avait pas annoncé le troisième tome d'emblée, parce qu'on voulait justement garder... ce suspense sur ce qui arrivait après. Toujours avoir ce côté cliffhanger, ce côté suspension de l'action, et l'écran s'arrête, on ne sait pas ce qui se passe après. Pour moi, c'est quelque chose de très important et qui est rentré en résonance avec le roman. Maintenant, en ce qui concerne le tome Origine, donc c'est un tome préquel qui se passe avant la trilogie principale et qui va raconter le passé des six prétendants garçons, les raisons pour lesquelles ils ont choisi de tout plaquer pour partir sur Mars. C'est un tome que j'avais très envie de faire et ça dépendait du succès un peu de la série. Comme la série a bien fonctionné, on s'est dit, allez, on y va, on fait ce tome-là, et ça m'a fait très plaisir de pouvoir l'écrire.
C'était peut-être un peu pour calmer les lecteurs aussi qui attendaient le tome 3.
Il est paru entre le 2 et le 3 et c'était un bon moment. C'est comme dans un film, en fait. Avant la révélation finale, on aime bien faire un flashback, se tourner vers le passé, voilà, ce qu'on appelle la backstory des personnages. Et c'était le moment opportun pour parler de tout ça, oui.
Et oui, notamment sur les garçons, parce que c'est vrai que les filles sont beaucoup plus abordées, on est beaucoup plus dans leur tête, et en l'occurrence celle de Léonore, mais au moins ça rétablit un petit peu l'ordre, on comprend mieux. Par le biais du tome Origine, et moi je trouve que c'est formidable, parce que même ces personnages masculins dont on a les esquisses, dont on connaît déjà les traits de caractère, vous arrivez encore une fois à nous les faire voir sous un jour nouveau, et c'est perpétuellement comme ça.
C'est vrai que la trilogie Phobos, on parlait du champ qui est du point de vue de Léonore, donc du point de vue d'un personnage féminin, forcément nous cacher un peu ce qui se passait dans l'autre partie du vaisseau, du côté des passagers. C'est pourquoi le tome Origine apporte des informations supplémentaires sur ces personnages qui, d'une certaine manière, restent assez mystérieux. Et une fois encore, ça m'intéresse de montrer les facettes insoupçonnées de personnages, de creuser leurs racines, d'essayer de comprendre pourquoi ils prennent des décisions. Et ouais, c'est ce que j'ai voulu faire dans Origine.
Donc, a priori, pas de Phobos Origine du côté des filles.
Non, en revanche, alors certains d'entre vous le savent peut-être, il y a un dernier tome de Phobos que je suis en train de terminer d'écrire actuellement, qui paraîtra cet hiver, qui raconte ce qu'il se passe après la trilogie principale. Hein. Origine, c'est un préquel, ce qui se passe avant. Celui-là, ça sera un sequel, hein, pour utiliser le terme anglais. Et on va voir... Alors, je ne veux surtout pas spoiler, là, faut faire attention aux termes que j'utilise... Mais je pense que le passé des prétendantes jouera un rôle important dans ce tome. Voilà.
Ben merci pour la révélation. moi, j'avais aussi d'autres questions concernant peut-être la littérature jeunesse, puisqu'il me semble que vous n'avez écrit que des livres pour adolescents,
oui,
ou young adult.
Oui.
Qu'est-ce qui est stimulant pour vous, en fait, à écrire la littérature jeunesse ?
Il y a plusieurs raisons. Déjà, pour moi, la littérature jeunesse, c'est l'héritière des romans d'aventure qui ont toujours fait partie de la littérature française, Alexandre Dumas, Jules Verne ou autres. On ne retrouve plus trop ça aujourd'hui en littérature adulte, dite adulte ou littérature blanche. C'est un souffle qu'on trouve en littérature jeunesse. Et d'ailleurs, beaucoup d'adultes aujourd'hui lisent des romans young adult ou des romans adolescents. Hein. Depuis Harry Potter, les barrières, les cloisons sont tombées et on n'a plus de réticence. Quand on veut de l'aventure, de l'imaginaire, on veut partir dans un autre monde, on va vers un livre jeunesse. Donc déjà, les potentialités en termes d'imaginaire qui sont offertes par la littérature jeunesse me stimulent énormément. Ensuite, le fait de mettre en scène des héros adolescents ou jeunes adultes, c'est un moment de sa vie finalement où on décide qui on veut être. C'est le moment où on fait les choix existentiels les plus importants. Et d'un point de vue romanesque, pour moi, c'est fantastique. Ça ouvre plein de possibilités. Il y a plein de conflits aussi qu'on peut traiter à travers les personnages. Et c'est quelque chose de stimulant pour l'écriture.
Vous pensez qu'on est plus libre quand on écrit de la littérature jeunesse ?
Ah oui, ça, j'en suis persuadé. Il y a moins de contraintes, on peut aussi plus facilement mixer les genres, faire des crossovers entre du fantastique, de la fantasy, du roman psychologique, dans le cas de Phobos, du thriller, de la science-fiction. Parce que ce qui compte finalement, ça ne va pas être la classification, ça va moins être l'étagère dans la librairie où on va mettre le livre. Ce qui compte, c'est vraiment la puissance de l'histoire. Si l'histoire emporte le lecteur, on peut aller dans tous les genres, on peut aller dans tous les univers, il n'y a aucun interdit. Et ce que je reproche à une certaine littérature adulte, hein, pas toute, mais une certaine, c'est de privilégier parfois uniquement le style au détriment de l'histoire et d'oublier l'art finalement de raconter une histoire. En fait, il faut que les deux aillent de pair. Et en littérature jeunesse, on ne peut absolument pas faire l'impasse sur l'histoire. Si l'histoire ne tient pas la route, s'il n'y a pas un rythme, s'il n'y a pas des personnages qui existent vraiment, s'il n'y a pas des enjeux auquel en tant que lecteur on tient, eh bien ça ne marche pas, le livre ne sera pas lu. Donc pour moi, les lecteurs en jeunesse, les lecteurs ados et jeunes adultes sont des lecteurs exigeants, et c'est pour ça que c'est très stimulant d'écrire pour eux.
Et à quel moment vous vous êtes dit que vous aviez envie de raconter des histoires, justement ? Ça vous est venu quand ?
Je pense toujours, déjà j'étais très friand, très boulimique d'histoires étant enfant, je voulais toujours qu'on me raconte des contes notamment, qui sont pour moi une grande source d'inspiration que j'ai utilisée dans mes deux premières séries, le cas de Jack Spark et Animal. Et puis ensuite, lorsque j'ai su écrire, j'ai commencé à écrire des petites nouvelles, des bribes d'histoire, et peu à peu, je me suis dirigé vers le roman. Et pour l'anecdote, alors je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent un petit peu ma biographie, mais je dors très peu. Et étant enfant, adolescent, pour moi, c'était un problème. Hein. Je passais beaucoup de nuits en clinique du sommeil pour essayer de trouver une solution qu'on n'a jamais trouvée. Et c'est en devenant adulte, vers la vingtaine, que je me suis dit, ce temps que j'ai en plus la nuit, où je ne réussis pas à dormir, bah, je vais arrêter de m'acharner, et je vais l'utiliser pour écrire, finalement. Et là, ça a été le déclic. Je dors toujours aussi peu, mais maintenant, je considère que c'est une bénédiction. Quand je me réveille à 3-4 heures du matin, je me mets à ma table de travail, et rien n'existe, rien d'autre que l'histoire que je suis en train d'inventer. Tout est silencieux, tout est plongé dans l'obscurité, il y a uniquement cette histoire. Et pour moi, c'est très simple, c'est très facile de me glisser du sommeil directement dans l'écriture. C'est devenu un peu ma routine, finalement.
En même temps, tout à l'heure, vous citiez Einstein, mais il a dit une autre phrase, « Je dors peu, mais je dors vite ». Ça pourrait s'appliquer à vous, finalement.
Peut-être, oui.
Vous mettez moins de temps pour récupérer, et tant mieux pour nous, finalement.
Oui, en tout cas, tant que ça dure, tant que je ne tombe pas d'épuisement, voilà, je continuerai à être fidèle au poste, à mon clavier, tous les matins.
Et on parlait justement des réseaux sociaux. Vous êtes assez présent, en tout cas pour vos lecteurs, pour répondre à leurs demandes. Vous êtes bien présent sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est dur d'arriver à trouver le bon dosage ?
Alors c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, la technologie n'est pas bonne ou mauvaise en elle-même, c'est un peu ce qu'on en fait. Et les réseaux sociaux, c'est un formidable moyen de prolonger les univers une fois le livre refermé, de continuer de parler des livres, d'échanger sur ces sujets qui nous passionnent, d'être en contact avec les lecteurs. Donc c'est un outil qu'il ne faut pas rejeter en bloc. En même temps, ça peut être très chronophage. Hein. Ça, c'est sûr qu'on peut passer des heures et des heures sur Facebook, Instagram. Et si on passe trop de temps, dans mon cas, après, je ne peux plus écrire. Donc, il faut que je trouve le bon dosage. Donc, je pense que maintenant, je l'ai trouvé. Je m'accorde certaines plages horaires dans la journée. Généralement, c'est après avoir écrit, justement, où je vais faire ma correspondance, répondre aux questions des lecteurs sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est un outil. Voilà, c'est un outil dont il faut savoir se servir. Et il ne faut surtout pas en devenir l'esclave, quoi. Il faut le laisser à sa place.
Et par rapport à l'écriture aussi, puisque, par exemple, je cite Christelle Dabos pour La Passe Miroir, qui va être une tétralogie. Elle nous dit qu'elle a déjà en tête toute l'histoire et qu'ensuite, elle découpe le texte, en l'occurrence, en 4 livres. Vous, comment ça se passe puisque j'ai cru comprendre que vous vous laissiez un peu surprendre aussi. Vous savez exactement où vous allez ou vous vous laissez...
Alors, j'aimerais bien ça. En tout cas, je fais tout pour savoir où je vais dans cette fameuse année de travaux préparatoires où je construis mon intrigue. J'ai des documents Excel, des post-it, enfin, tout ce qu'on veut pour finalement faire une carte, une feuille de route. Mais ce sont les personnages finalement qui ont le dernier mot. C'est-à-dire à partir du moment où mes personnages commencent à exister, où je commence à les décrire, à les faire échanger, à les faire dialoguer, ils vont m'emmener en dehors des sentiers battus. Ils vont m'emmener systématiquement, et je l'ai expérimenté dans tous les livres que j'ai écrits jusqu'à présent, ils me font sortir du motif que j'avais imaginé. Donc il y a un côté un petit peu inquiétant, je me sens moins en sécurité, je ne sais plus trop exactement où je vais, même si j'ai un cap, et en même temps c'est très exaltant. Parce qu'il y a un plaisir de surprise et de découverte que j'expérimente à leur côté.
Mais vous n'êtes pas le premier auteur à dire ça, c'est-à-dire que les personnages deviennent des entités à part entière.
Ils prennent leur autonomie.
Oui, ils en font un peu qu'à leur tête.
Alors on essaye de les canaliser quand même un petit peu, mais ce n'est pas toujours possible. Et je pense que les personnages, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important dans un roman. Il y a différents genres littéraires, les nouvelles, la poésie ou autre, où les personnages n'ont pas cette importance, mais le roman vraiment repose sur ces personnages. Je pense que c'est la chair d'un roman, ce sont les personnages. Et c'est normal, du coup, de leur accorder une certaine autonomie.
Et justement, je pense que c'est dû aussi à cette écriture très cinématographique, et je sais que ça peut être agaçant de poser cette question, parce que c'est une question qui revient très souvent, mais... est-ce que ça va être adapté ?
Alors, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup pour plusieurs raisons. Déjà, on le disait, Phobos est écrit comme un script en séquence, donc le travail est un peu mâché déjà pour un producteur. C'est un livre qui parle beaucoup de l'image, donc le fait de le voir porté à l'écran, ça serait logique, il me semble. Et il se trouve, là c'est un scoop, et je ne peux malheureusement pas trop en dire, parce que ces choses prennent beaucoup de temps, et il y a des questions contractuelles, mais que le livre a été optionné, donc pour être effectivement adapté, sous forme de série, j'en dirai pas plus. Et je rencontre le producteur dans une semaine, et le scénariste, voilà. Voilà.
Super. Non, mais en plus, c'est-à-dire que déjà, quand on le lit, on a les images qui nous viennent très naturellement. Mais en plus, là, je pense qu'il y a vraiment possibilité de faire quelque chose d'assez spectaculaire. Et pour l'amusement, comme ça, est-ce que par exemple, pour Serena McBee, vous aviez pensé à une actrice en particulier ?
Alors, on en discutait. C'est vrai qu'il y a... On imagine, et même les lecteurs souvent envoient leurs propositions de casting, ça m'intéresse toujours de voir qui ils ont imaginé, dans quel rôle, quel personnage. Serena McBee, alors il pourrait y avoir plusieurs actrices, Meryl Streep serait bien sûr, elle peut tout jouer de toute façon.
Bien sûr, bien sûr.
Donc,
surtout ce rôle de femme
le
très autoritaire.
Sabine en Prada, c'est... Mais il y en a une en particulier qui est peut-être un peu moins connue, une actrice que j'adore, c'est Tilda Swinton. Que vous connaissez peut-être, elle a joué notamment la Reine des Glaces dans Narnia, mais aussi plein d'autres rôles, et elle a ce visage sans âge finalement, un peu androgyne et sans émotion. Elle réussit très bien à jouer ce côté absence d'émotion qui conviendrait parfaitement à Serena. Donc ça, je serais très heureux si c'était elle. Si ça devait être une actrice française, Isabelle Huppert, je pense, est capable aussi d'avoir ce type de jouer ce type de rôle. Mais il y a aussi sans doute plein d'actrices auxquelles je ne pense pas maintenant.
Bon, écoutez, en tout cas, c'est une excellente nouvelle. Et avant que je passe peut-être la parole au public, s'il y a des questions que vous aviez envie de poser, moi, j'en ai une dernière concernant peut-être les projets à venir, projets d'écriture. Vous en êtes où?
Alors, comme je disais, je suis en train de terminer le dernier tome de Phobos, ce sequel. Et ensuite, j'ai d'autres choses qui sont prévues, mais j'aime bien être assez secret. Mes lecteurs le savent. J'aime bien ménager la surprise et partir vers des territoires où on ne m'attend pas forcément. Chacune de mes séries jusqu'à présent explore un nouveau territoire en ce qui me concerne. Le cas de Jack Sparks, c'est de la fantasy urbaine. Animal, c'est du roman historique fantastique. Qui puise dans les coulisses, les racines des contes de fées. Phobos, c'est donc un thriller de science-fiction très, très moderne. Le prochaine étape sera différente de ces trois-là. C'est tout ce que je peux dire.
Merci beaucoup, Victor Dixen.
Merci.
Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Et à très, très bientôt, on espère.
À bientôt.